ce privilège sans mesure qui est le nôtre. Pouvoir ensemble et individuellement nous asseoir à tes pieds, choisir la bonne part, la meilleure, dans un monde si troublé et troublant. Seigneur, merci. Quelle grâce. Merci pour le cadeau de ce culte, de ce temps à tes pieds. Ô Seigneur, utilise-le pour glorifier ton nom dans nos vies, dans nos cœurs. Sanctifie nos oreilles et les oreilles de notre cœur pour que nous soyons de vrais auditeurs, heureux de pratiquer ce que tu veux bien partager avec nous gracieusement. Sois béni, puis nous te confions aussi les enfants, afin que tu les bénisses dans le temps qu'ils passent aussi dans ta présence, et qu'ainsi tu les formes pour toi. Nous les recommandons à ta grâce pour leur salut et pour leur croissance spirituelle et leur témoignage. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire ensemble trois passages. Les deux premiers dans l'épître de Jacques, la Marseillaise quant à l'utilisation de la langue, cette épître dans laquelle chaque chapitre nous invite à bien utiliser la langue, et en particulier l'axe central du chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, nous lisons un extrait, les versets 8 à 12. Versets 8 à 12, où Dieu nous dit: la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image ou à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Au chapitre 4, versets 8 à 12, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dans l'épître suivante, la première épître de Pierre, au chapitre 3, 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, voir des jours heureux, des jours bons, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il soit zélé vers la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Trois courts passages qui traitent de ce petit organe d'une dizaine de centimètres de long qui pèse une soixantaine de grammes. Il n'est pas lourd, mais comme quelqu'un l'a dit, nous avons beaucoup de peine à le porter. Et vous aurez sans doute remarqué une similitude dans les trois textes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. N'allez pas trop loin, ne sondez pas le texte pour le moment, mais c'est un moyen de retenir. Avez-vous remarqué quel verset nous avons lu? Jacques 3, 8 à 12, Jacques 4, 8 à 12, 1 Pierre 3, 8 à 12. Voilà un moyen de retenir trois textes très importants sur l'utilisation de la langue. Nous avons évoqué dans notre étude d'introduction avant-hier soir cette affirmation de Proverbe 18-21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et nous avons essayé simplement, en nous appuyant sur les Écritures et aussi sur quelques exemples concrets de notre quotidien, d'évoquer cette vie et cette mort qui jaillissent de l'utilisation de notre langue. C'était notre étude d'introduction pour bien montrer l'importance de cet organe de communication. Hier après-midi, nous sommes allés vers l'Ecclésiaste, au chapitre 3, pour sonder son affirmation. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et nous avons spécialement mis l'emphase hier après-midi sur le temps pour se taire, sur les temps du silence, tellement difficile. Quand on est victime de la calomnie, quand nos propos sont mal rapportés, et dans tant d'autres situation où il nous démange de dire parce que nous ne comprenons plus, l'hostilité est trop grande, nous ne comprenons même pas les voies de Dieu. Et nous avons vu au travers des Écritures ces silences, cette maîtrise de la langue dont la Bible nous dit qu'il est impossible de la dompter sur un plan strictement humain. Mais notre conclusion, nous y reviendrons, était pour dire que le Seigneur, lui,
est là pour dompter notre langue, et il a fait le nécessaire pour que notre langue soit domptée. Alors nous allons aujourd'hui, et dans cette réflexion de ce matin et de cet après-midi, encore voir deux éléments balancés, contradictoires. Dans Jacques 3, nous avons lu que par la langue, nous bénissons le Seigneur, verset 9, le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image ou à la ressemblance de Dieu, parce qu'il y a deux mots essentiellement, il y en a d'autres même, traduits par image, et ici c'est un mot qui va davantage dans le sens simplement de la ressemblance, fait à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et Jacques, de la part de Dieu, d'ajouter de manière toute simple, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, et d'illustrer ce propos divin par deux ou trois exemples, la source, le figuier, la vigne, l'eau salée, l'eau douce. Il y a là constatation troublante. Le même instrument est utilisé pour bénir le Seigneur notre Père. Et c'est ce que certains d'entre nous ont fait à voix haute pendant la première partie de ce moment ensemble. D'autres l'ont fait dans leur cœur. Bénir le Seigneur notre Père, l'expression la plus haute, la plus pure, la plus noble dans l'usage de la parole. Mais ce même instrument est aussi utilisé pour maudire les hommes faits à la ressemblance de Dieu. L'expression la plus basse, la plus terrible, la plus cruelle, la plus ignoble dans l'usage de la parole. Deux extrêmes opposés dans l'utilisation de la langue. Et maudire, dans ce passage, est un terme très fort. C'est plus qu'injurier. C'est même désirer que l'autre soit séparé de Dieu et voué au châtiment éternel. Nous avons ici un terme dans le texte original qui indique en quelque sorte une prière de malédiction, une imprécation. C'était quelque chose de très important dans l'Antiquité. Il y avait même un caractère superstitieux attaché à l'imprécation, et c'est ce qui fait, par exemple, que le roi Balak de Moab a donc envoyé des émissaires vers ce devin, ce prophète contre lui-même, malgré lui, cet homme véreux, attiré par l'argent, instrument habituel de la puissance des ténèbres, et qu'il a plu à Dieu d'utiliser dans sa souveraineté, non pour maudire Balaam, le peuple d'Israël, comme Balak le souhaitait, mais pour bénir son peuple. Et il y a là tout ce système de pensée de l'époque où on pensait pouvoir manipuler Dieu pour que, par toutes sortes de cheminements, il a bâti des autels, etc., n'est-ce pas ? Il y avait toute une pratique. Et il est entré dans une attitude occulte, Balaam. Et il pensait qu'en faisant cela, Dieu était obligé d'entrer dans son jeu et de maudire le peuple d'Israël. Et puis, le Dieu souverain n'est pas entré dans ce jeu-là, et malgré les pratiques occultes de Balaam, Dieu lui a fait dire qu'au contraire, il bénissait son peuple et qu'il mettait même son peuple à l'abri de toute malédiction liée à l'occultisme. Vous lirez ces passages dans Nombre 22 à 25. Bénir Dieu, dire du bien à Dieu, concernant Dieu, le louer, l'adorer, pour son caractère, pour ses œuvres, dire du bien de lui. En hébreu, le terme d'où vient bénir est associé au genou. Et on s'est posé beaucoup de questions. Peut-être est-ce parce que on est tenté de se mettre à genoux pour honorer Dieu, pour invoquer, pour louer, pour adorer Dieu. Nous ne savons pas exactement quel lien faire entre les deux. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est la tragédie de nos langues. Notre inconstance. Cette facilité avec laquelle nous faisons se succéder sur nos lèvres des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. J'ai là sous les yeux un extrait d'un des livres de Spurgeon consacré à l'évangélisation et dans lequel, à un moment donné, l'auteur écrit ceci, certains pasteurs, mais c'est valable de tout un chacun, mais c'est d'autant plus problématique quand il s'agit d'un serviteur de Dieu et d'un enseignant. Hein. Et c'est dit au début de Jacques 3, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alors, Spurgeon écrit ceci, « Certains pasteurs sont des anges à moitié. Et pour le reste, il s'agit, eh bien, disons, d'asticots. Tel homme proclame bien l'évangile et vous vous dites, voilà un homme de Dieu. Vous l'invitez à manger afin de goûter des paroles de la grâce qui couleront de ses lèvres. Mais voilà que des asticots en sortent. Un ange dans sa proclamation est maintenant un antre grouillant. Ce contraste horrible a pourtant de nombreux exemples. Serait-ce votre cas ? Dans le voyage du pèlerin, vous avez le personnage Beau Parleur. Et Beau Parleur, c'est celui qui est saint hors de chez lui et un diable quand il est à la maison. Le Beau Parleur. Saint entre les quatre murs de la salle de réunion et diabolique lorsqu'il est à table, dans la chambre, dans son travail, à la maison, dans sa relation avec les autres. Voilà donc la tragédie de la langue. Et une question se pose aussitôt, mais quelle est la raison profonde de cette tragédie de nos langues ? Et là, je ne m'adresse pas uniquement à tout un chacun, mais je m'adresse en particulier à celui, à celle qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Quelle est la raison profonde de cette attitude contradictoire ? Eh bien, je crois la discerner dans l'épître de Jacques, où à deux reprises revient la même expression au chapitre 1er, tout d'abord et au verset 8, où il est question d'un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu est un homme inconstant dans toutes ses voies. Langue inconstante. Irrésolu, littéralement, d'après l'étymologie du mot dans l'original, un homme à l'âme double. Un homme à l'âme double. Il y a d'ailleurs une expression qui va tout à fait dans le même sens quand il s'agit de l'inquiétude. Le terme principal rendu par inquiétude dans notre langue, dans le Nouveau Testament, c'est aussi un terme qui évoque la division de l'âme, un partage absolument anormal. Et ici, cette expression revient une seconde fois au chapitre 4, et au verset 8, nous avons lu tout à l'heure ce passage, qui débouche d'ailleurs sur l'utilisation de la langue, c'est intéressant. « Purifiez vos cœurs, homme irrésolu, homme à l'âme double, homme partagé dans votre âme. » Le cœur partagé. Et voilà ce qui rejoint, c'est intéressant, l'épicentre de notre réflexion d'hier soir, où nous avons souligné l'importance de tout mettre sur l'autel. Et nous avons fait allusion à un texte que nous aurions pu décortiquer dans Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à cause du déploiement extraordinaire de l'amour insondable de Dieu, touché par votre misère. Il est question d'un amour ici qui souffre. Les compassions, c'est la souffrance de Dieu portée à son paroxysme dans le don de Jésus-Christ sur la croix. Par les compassions de Dieu, je vous exhorte, je vous encourage, je vous supplie, terme qui peut avoir toute une série de sens, dont je vous supplie, je ne peux pas vous imposer. Je respecte votre liberté. Mais je vous supplie d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique, conforme à ce que la raison demande, c'est sûr. Comment ne pourrions-nous pas ou ne voudrions-nous pas offrir la totalité de nos personnes à celui qui s'est donné entièrement pour nous sauver? Nous l'aimons car il nous a aimés le premier, dira le vieillard apôtre Jean. Et puis le verset 2, qui est relié au verset 1er par une petite conjonction qui a souvent sauté dans nos versions, mais elle existe dans le texte original pour bien montrer qu'il n'y a pas une cloison entre les deux versets. Et ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous coulez pas dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde, mais soyez transformés, littéralement soyez métamorphosés, soyez transformés de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une transformation en surface. Il y a un autre terme qui pourrait être utilisé ici pour évoquer une transformation simplement extérieure, un changement de vêtements. Métamorphosé. Qu'il y ait une révolution intérieure, soyez métamorphosé, transformé. Et c'est un présent en grec, dans la langue grecque, un impératif présent, ça veut dire soyez continuellement transformé de l'intérieur. Depuis que vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous êtes en transformation permanente. Il se produit en vous un progrès dans une révolution qui doit être permanente, et ceci par le renouvellement de l'intelligence, la mentalité, l'entendement, tout ce qui appartient au monde de notre cerveau. Soyez métamorphosés, révolutionnés par le renouvellement de notre mentalité. Notre système de pensée doit changer afin que vous discerniez, afin que vous mettiez à l'épreuve, afin que vous appréciez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon à ses yeux. Parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours bonne à nos yeux au départ. Elle le devient par la suite. Hein. Elle est parfois bien désagréable au départ. Mais ce qui est bon aux yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, la volonté de Dieu ne peut être que bonne, agréable, c'est-à-dire qui lui plaît, ce qui lui plaît littéralement, et ce qui est parfait. parfait, parce que la volonté de Dieu ne peut être que parfaite.
Texte clé.
Et l'apôtre Paul, qui est un ancien rabbin, qui peut-être connaissait l'Ancien Testament par cœur, parce que bien des rabbins étaient capables de vous réciter l'Ancien Testament par cœur. Manifestement, Paul s'appuie sur l'Ancien Testament, plus particulièrement sur le culte rendu à l'Éternel dans la loi de Moïse, et plus spécialement encore sur les premiers chapitres du livre du Lévitique. Et d'ailleurs, toute la structure du chapitre 1er jusqu'à ce chapitre 12 est bâtie avec des directions qui vont tout à fait dans le même sens que ce qui est écrit dans les premiers chapitres du livre du Lévitique. Mais simplement, c'est, la construction se fait à l'envers par rapport à ce qui est dit dans le début du Lévitique. Et ici, nous avons manifestement dans la pensée de Paul une allusion au premier chapitre du Lévitique. Le premier chapitre du Lévitique, c'est le plus grand sacrifice, le sacrifice suprême, celui que l'on présente à Dieu après avoir présenté tous les autres sacrifices de culpabilité, d'expiation, de reconnaissance, d'action de grâce. Il y a le summum qu'on appelle l'Holocauste. Holocauste parce que c'est un sacrifice dont la fumée monte vers Dieu. C'est un sacrifice qui monte vers lui et qui lui est agréable dans la mesure où tout, sans exception, est mis sur l'autel. Tout. C'est le seul sacrifice d'un animal égorgé et ensuite dépecé, coupé en morceaux, dont tout, absolument tout, devait être placé sur l'autel et brûlé. Et dans ce chapitre premier du Lévitique, il est insisté sur le fait que la tête, par exemple, devait être elle aussi mise sur l'autel. Et la tête, dans les Écritures, évoque plusieurs significations, mais en particulier tout ce domaine de la pensée, du cerveau, de l'entendement, du raisonnement, de la volonté. C'est un petit peu l'équivalent d'un autre mot des Écritures qui est très très fréquemment employé, le mot cœur, qui est donc l'épicentre de la personne, le quartier général de l'individu. Et Paul, donc, s'appuyant sur Lévitique chapitre 1er, dit, écoutez, après tout ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ, et qui est résumé dans le summum, hein, au chapitre 8, vous savez comment est construit l'Épître aux Romains, qui est, on l'a appelé la cathédrale de la foi chrétienne, la clé d'or des Écritures. Une épître qui était lue par certains hommes de Dieu au moins une fois par semaine, il y aurait bien des choses à dire. L'épître dont Dieu s'est servi par excellence pour ce qu'on a appelé la réformation. Dieu s'est servi du message de cette épître pour décocher des flèches salvatrices dans le cœur de ce moine Martin Luther, qui essayait d'atteindre le ciel par ses propres efforts, n'est-ce pas? Et donc c'est un exposé merveilleusement logique, bien charpenté, bien construit, que Paul adresse à l'église de Jésus-Christ dans la capitale de l'Empire romain. Il vise donc là aussi l'épicentre de ce grand empire, et donc il fait un exposé bien construit qui commence douloureusement par le thème de la condamnation. Nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous coupables. Gens religieux, irreligieux, les juifs, les grecs, nous sommes absolument tous coupables. Et il dresse d'ailleurs un portrait de l'homme coupable qui est impressionnant au chapitre 3, dans lequel il y a la langue, nous l'avons vu depuis vendredi. Il n'y a point de juste, verset 10. Tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Vous voyez, l'apôtre Paul commence par la tête. Nul n'est intelligent. Ça ne va pas dans la tête de l'homme. Tout est brouillé, tout est à l'envers. C'est le chaos, c'est le désordre dans la tête de l'homme. Nul n'est intelligent. Pourquoi ? Parce que nul ne cherche Dieu. L'homme qui ne cherche pas Dieu est fou dans sa tête. L'insensé dit en son cœur, le cœur, nous l'avons vu, est épicentre de la personne, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et quand on dit il n'y a point de Dieu, quand on ne veut pas de Dieu, quand on pense pouvoir se passer de lui, eh bien on vit dans le désordre de sa tête et on est capable alors de devenir d'une folie, la folie que nous voyons continuellement s'étaler sous nos yeux. Au point que par moments nous nous pinçons en disant, mais est-ce qu'il est possible qu'en l'an 2000, après tant et tant de centaines d'années, de millénaires, on soit encore capable de vivre de cette manière et de dire ce que l'on dit aujourd'hui. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comment voulez-vous faire le bien si ça va mal dans votre tête? Et bien entendu, nous devrions traduire ici, il n'en est aucun qui pratique le bien. C'est un présent encore, toujours en grec, c'est très important, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans la continuité. Ça ne veut pas dire que l'homme ne fasse pas des choses que, devant lesquelles on tire son chapeau. C'est vrai, même le disciple de Jésus-Christ doit faire attention. Hein, tout ce qu'il se fait autour de nous n'est pas mauvais. Il y a aussi de belles choses qui se font. Mais même ce qui est beau est gangréné par le péché, ça c'est le problème. Enfin, nous bénissons Dieu de ce que dans sa folie, l'homme créature de Dieu soit encore capable de prouver l'existence de Dieu par le bien qu'il est capable ici et là de faire. Mais la dominante, il n'en est aucun qui pratique régulièrement, avec stabilité, avec continuité. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Puis alors on arrive à la bouche. Alors tout y passe. Hein. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous voyez l'insistance. Puis ensuite, ils passent à une autre partie du corps. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, donc l'usage des pieds. Et puis ensuite, les yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Condamnation. Et puis après avoir embouché cette trompette terrible de la condamnation, Paul la dépose pour en emboucher une autre, avec un plaisir, une joie évidente, la justification. Nous sommes tous condamnés, nous sommes perdus, nul d'entre nous ne réussit à atteindre le mille de la cible de Dieu, où nous visons trop bas, où nous visons trop haut, où nous visons à côté, c'est ça le péché. Quand un grec tirait et qu'il manquait la cible, il disait « j'ai péché ». Et il y avait plusieurs termes qui étaient utilisés pour exprimer qu'il était passé au-dessus, en dessous, à côté, ou qu'il avait trébuché. Quand il se cassait la figure en cours de route, il disait aussi « j'ai péché, je suis tombé ». Des termes parfaitement compréhensibles pour les uns et les autres. Et puis, Dieu a trouvé un moyen extraordinaire de nous voir justes. De nous regarder, ce Dieu très grand, comme si nous n'avions jamais fauté. Et ce moyen, il l'a trouvé chez lui. Dans ce qui était le plus précieux pour son cœur. Dans son Fils unique et bien-aimé. Dieu a donné son Fils unique et bien-aimé pour que nous soyons acquittés. Pour que nous soyons innocentés. Pour que nous soyons déclarés justes, nous qui sommes coupables. C'est ce qu'on appelle la justification. La justification est un acquittement. Tu es pécheur, mais je te vois juste. Je te déclare juste. Je te vois comme si tu n'avais jamais fauté. Parce que mon Fils a pris sur lui ta culpabilité, ta condamnation, ton châtiment. Et dans la mesure où tu te tournes vers mon Fils, où tu viens à la croix, un échange extraordinaire se produit Christ te revêt de sa justice. Et désormais, je te vois à travers la justice de mon Fils bien-aimé. Je purifie ton cœur, je purifie ta conscience. En quelque sorte, je te donne un cœur nouveau. J'entre en toi, je viens faire ma demeure chez toi. Mon Fils prend possession de ta vie par le Saint-Esprit. Tu es un justifié. Je t'ai appliqué ma justice parfaite à cause du sacrifice de mon Fils bien-aimé. Et puisque le Saint-Esprit maintenant habite en toi, puisque Christ habite dans ton cœur, je vais développer en toi une vie nouvelle. Je te mets à part pour moi. Désormais, tu m'appartiens. Non seulement Christ est mort pour toi, mais maintenant il est vivant pour travailler en toi en permanence par le Saint-Esprit. C'est la sanctification. Troisième grande dimension de cet épître aux Romains, chapitre 6. Au début du chapitre 8. Autrefois, tu mettais tes membres à la disposition du péché, du mal. Maintenant que tu as été sauvé, tu mets tes membres à la disposition de Dieu. Tu te soumets totalement au Saint-Esprit, en accord avec les Écritures qu'il a inspirées. Et tu grandis en sainteté à la ressemblance de Jésus. Le salut dans sa dimension passée, il est mort pour moi. Le salut dans sa dimension présente, il vit en moi. Et puis enfin, le salut dans sa dimension à venir, la glorification, le couronnement de ce chef-d'œuvre exposé dans la dernière partie de Romains 8. Un jour, bientôt, ce salut qui n'est encore qu'en espérance, puisque nous sommes toujours dans un corps qui nous pose un tas de problèmes, puisque nous dérapons dans quantité de domaines, parce que nous ne savons pas encore utiliser notre langue comme il faut, un jour, nous serons glorifiés. Nous soupirons après un changement, parce que plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous souffrons de nos inconséquences, pas seulement de ce qui se passe autour de nous, mais aussi de ce qui se passe en nous. Nous sommes de plus en plus sensibles à nos faux pas. Nous apprécions beaucoup plus qu'avant la grâce de Dieu, la générosité de Dieu, le pardon de Dieu. Mais nous aspirons à ce que tout cela change, à revêtir un nouveau corps, la glorification, le salut dans sa totalité, dans la rédemption, dans le rachat qui va toucher nos corps eux-mêmes. Condamnation, justification, sanctification, glorification. Et avec cette symphonie fantastique de la fin de Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Et Paul va énumérer tous les ennemis possibles. Il y en a 7 qui se succèdent et qui peuvent s'attaquer avec cruauté aux disciples de Jésus-Christ. Et après les avoir énumérés, après avoir souligné qu'il est des avocats qui plaident, qui luttent en notre faveur, après avoir souligné que toutes choses coopèrent, travaillent ensemble à notre bien, nous qui aimons Dieu, dit rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Puis il y a une parenthèse, Romains 9 à 11, qui traite de la relation de Dieu avec l'histoire des hommes sur la terre, plus particulièrement avec Israël. Chapitre 9, 10, 11. La philosophie de l'histoire dans la pensée de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Israël hier, Israël aujourd'hui, Israël demain. Puis on arrive au début de ce chapitre 12, où vous avez ce petit « donc ». Donc, je vous exhorte donc. Et le donc vous permet de relier ce que Paul commence à développer, en particulier aux 8 premiers chapitres. Parce que vous étiez condamnés. Parce que vous avez été justifiés. Parce que vous êtes sanctifiés. Parfaitement sur la base de la croix, mais en cours de sanctification pratique. Parce qu'un jour, vous allez être glorifiés, vivre quelque chose de sublime qu'on ne peut pas exprimer par les lèvres, à cause de cet amour extraordinaire dont je vous ai écrit, croyant de l'Église de Jésus-Christ à Rome. À cause de cela, offrez vos corps. Offrez vos corps en holocauste. Mettez votre vie totalement sur l'autel. Totalement. S'il y a un domaine dans lequel le totalitarisme de Dieu explose, le radicalisme de Dieu explose dans les Écritures, c'est en particulier celui de la consécration. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Et nous sommes tentés de dire, mais Dieu est bien exigeant. Après tout, quand je lui donne 70% de ma personne, il y en a un tas d'autres qui ne donnent même pas les 50%. Dieu devrait bien se contenter de ce que je fasse déjà partie de l'élite. Si je réussis même à hausser le niveau de ma consécration à 90%. Et Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu veut tout. Tout doit être mis sur l'autel. À commencer par le cœur, l'entendement, hein, on a vu tout à l'heure ce verset 2. Tout le monde de nos pensées. Et puis tous nos organes. Ce qui fait que notre christianisme devient visible aux autres, parce que c'est ça le but de Romains 12 et suivant. On sort de la doctrine pour entrer dans la pratique. Dans les 8 premiers chapitres, l'apôtre Paul a expliqué comment être juste et comment exercer sa foi, l'importance de la foi. Le juste vivra par la foi. Alors, il a pris deux des termes, juste et foi. Et il les a développés. Et il y a un terme qui manque, qu'il n'a pas encore développé. C'est le mot « vivra ». Et à partir de Romains 12, Paul dit de la part de Dieu, « Eh bien, voilà comment tu dois vivre maintenant. Voilà comment ça doit se concrétiser dans ta vie de tous les jours. Il faut que ça se voit. C'est pour ça qu'il faut offrir le corps. Le corps, c'est l'expression visible de la totalité de notre personne. Et dans la pensée du peuple hébreu en particulier, le terme corps englobait la totalité de la personne. Alors nous pouvons le décomposer, n'est-ce pas? Ce sont les yeux, ce sont les mains, ce sont les pieds, ce sont les oreilles, c'est la langue. Chaque aspect de notre personne est mis sur l'autel. Et pourquoi est-ce que Dieu est si radical? Si absolu. Pourquoi est-ce que Dieu ne se contente pas de 70, 80, 90, 95%? Bien, une petite parabole va nous aider à le comprendre. Imaginons que ma famille et moi nous habituions dans la région. Et que un jour, vous découvriez dans un journal local une annonce signée de Maurice Decker avec notre numéro de téléphone et indiquant que nous mettons en vente une vieille terre ancestrale parce que nous aurions des origines dans le coin qui remontent à des siècles et des siècles en arrière. Ce n'est pas le cas.
C'est un beau terrain, un grand terrain, 1 hectare, 10 000 mètres carrés. Et quand vous découvrez cette annonce, vous dites, qu'est-ce qu'il est cachotier, Maurice Decker, il aurait pu nous le dire, c'est un frère. Parce que moi, je cherche un terrain depuis un certain temps déjà. Et les terrains sont chers. Alors, je suis sûr que Maurice Decker, parce que c'est mon frère en Christ, il va me faire un prix évangélique. Alors voilà que je décroche le téléphone qui sonne avec une certaine insistance et j'ai ce fameux frère qui m'en veut un petit peu à quelque part. Il me dit, écoute Maurice, je viens de découvrir ton annonce. Moi, j'ai précisément besoin d'un terrain de 10 000 mètres carrés. Combien tu le vends ? Alors, je prends mes précautions, mais bien sûr, j'articule une somme et je m'apprête à assortir la somme d'un certain nombre de précisions, mais il a tellement confiance et il est tellement heureusement surpris de ma fraternité évangélique qu'il dit, écoute, je viens tout de suite, on va tout de suite chez le notaire, c'est réglé. Il raccroche. Et le voilà qui se pointe à notre domicile. Complètement enthousiaste. Et je suis obligé d'essayer d'atténuer quand même son enthousiasme parce que je n'ai pas pu lui dire certaines choses. Et avant d'aller chez le notaire, je voudrais lui faire remarquer qu'il y a des clauses. Et il y a même des clauses restrictives à la vente. Des conditions particulières à remplir. Alors, il commence à changer un petit peu de visage, mais enfin, comme je suis son frère et évangélique de surcroît, ça ne peut pas être catastrophique. Et je lui explique ceci, mais tu vois, cher frère, tu n'es pas sans ignorer que tous mes ancêtres sont de la région, ce terrain que je mets en vente a une forte portée émotionnelle, affective pour moi, c'est un lieu du souvenir. Il y a des racines là aussi, au sens de la pensée, de la mémoire. Sur le bord d'une enveloppe, dans le coin, hein, en haut à droite, et tu vas t'arranger pour chercher lequel des coins est le moins problématique pour toi. Or, vois-tu, si tu m'installes dans un coin, quand je vais venir pique-niquer avec ma famille, et que je vais faire un tour comme ceci avec mes yeux. Bien sûr, d'un côté, je vais voir le terrain. Mais des autres, je vais côtoyer tout ce qui ne m'appartient pas. Et pour moi, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Et j'imagine que mon frère me voit venir. Quand je lui dis que la clause restrictive, c'est que j'aimerais avoir ce petit bout de terrain, mais de rien du tout, 100 mètres carrés sur 10 000 mètres carrés, au milieu, pour être environné de mon passé, pouvoir raconter à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tu vois là, il s'est passé ceci, et là, il s'est passé... Et quand il y a cette première clause restrictive, en vient immédiatement une seconde qui est sa sœur jumelle. C'est que quand on a un terrain qui est enclavé dans un autre, il existe une loi qui vous donne un droit de passage. Et il y a des centaines de milliers de procès devant la justice française à cause des problèmes créés par les droits de passage. Et dit, tu sais, il me faudra un droit de passage pour venir avec ma ribambelle d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes. Bon, écoutez, si mon frère a tant soit peu de bon sens, croyez-vous que malgré mon prix, ou à cause de mon prix évangélique, il va finalement venir avec moi chez le notaire, Moi, je vous dis une chose, et je rejoins une sœur. Si j'étais à sa place, je n'irais pas. Je n'irais pas. Vous comprenez le sens de la parabole? Qu'est-ce qui se passe quand nous disons, Seigneur, je te donne ça de ma personne, mais ça, je le garde. Ah, puis je t'ai donné déjà tellement. Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous ne donnons pas à Dieu dans notre salut, volontairement, à cause des compassions de Dieu, reste apparemment sous notre autorité, mais hélas, hélas, reste sous l'autorité de la puissance des ténèbres, de Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va user et abuser du droit de passage. Il sait qu'il a en moi une petite plateforme, une aire d'envol. Et à partir de là, de cette petite plateforme, il va polluer tout ce qui est consacré au Seigneur. Et c'est ce qui fait que quelqu'un qui se donne au Seigneur à 90%, pardon de le dire, n'est pas plus heureux que quelqu'un qui se donne à 40%. Parce que tout ce qu'il donne au Seigneur, et il se croit généreux pour le Seigneur, ne remplit pas son cœur de joie. L'ennemi en profite pour polluer à partir de ce qui est encore entre ses mains, cette petite clé qu'il ne veut pas livrer au Seigneur. L'ennemi en profite pour polluer tout ce qui a été donné. Jésus-Christ veut être Seigneur de mon corps. C'est juste après ce que nous avons lu dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 15 qu'il est dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur » que nous devrions lire à l'envers parce que le texte original dit les choses à l'envers. « Le Seigneur Christ sanctifiez dans vos cœurs. » Le Seigneur. Pierre commence par là. Il vient de parler de l'utilisation de la langue, il va en reparler puisqu'il va dire qu'il faut utiliser notre langue pour nous défendre avec douceur et respect de l'espérance et des certitudes qui sont en nous. Et entre ces deux passages consacrés à, notamment à l'utilisation de la langue, il dit mais la seule solution, c'est que Christ occupe la place qui lui revient au cœur de ta vie. Il faut qu'il soit sur le trône. À 100%. Le Seigneur Christ sanctifié dans vos cœurs. Et si on va dans Jacques 3, il est dit au verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père. Si on va dans Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, ne parlez point mal les uns des autres. C'est pas pour rien que de temps en temps, dans certains textes, il est dit Jésus, dans d'autres Jésus-Christ, et puis dans d'autres le Seigneur. Ici, le contexte, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut être Seigneur. Il veut être Seigneur de ma langue. Alors bien sûr, on n'est plus autant des Seigneurs. Et pour nous, c'est une expression qui a beaucoup perdu de sa valeur. Mais quand on sait ce qu'il en a coûté à des milliers et des milliers de disciples de Jésus-Christ dans les premiers siècles de l'Empire romain, d'oser proclamer que Jésus-Christ était vraiment le Seigneur de leur vie. Combien de croix se sont dressées le long des voies romaines sur lesquels agonisaient dans des douleurs insupportables des milliers de croyants pour la seule raison qu'ils n'avaient pas voulu reconnaître la seigneurie de César. Parce que pour eux, il n'y avait qu'un seul Seigneur. un seul Dieu. Celui qui s'était donné pour eux sur la croix. Et je pourrais vous raconter des histoires de martyrs, je pense au martyr de Polycarpe, cet évêque de Smyrne, disciple de l'apôtre Jean au IIe siècle. Vieillard, il avait 86 ans quand il a été traîné dans le cirque romain. Et qu'on l'abjurait, on le suppliait, à cause de son grand âge, à cause du témoignage remarquable qu'il avait donné. On lui disait, mais si tu dis simplement que Jésus n'est pas Seigneur, on te laisse partir, tu es tranquille. Et jusqu'au bout, Polycarpe a tenu le choc. Et on a des échanges absolument bouleversants, écrits de cette époque, concernant ce procès qui va aboutir à la condamnation. Et finalement, Polycarpe va monter sur le bûcher. Et même les Juifs lui en veulent terriblement, à tel point que, quoi que l'on soit un jour de sabbat, les Juifs pieux vont enfreindre le sabbat pour aller chercher les fagots, pour constituer ce bûcher sur lequel il va mourir, tout simplement parce qu'il ne veut pas laisser une quelconque place à la seigneurie de César dans sa vie. Seul Christ est Seigneur. Et cette seigneurie de Jésus-Christ dans la vie de Polycarpe va être tellement extraordinaire que, après sa mort, quand les Romains vont vouloir continuer à persécuter les croyants de la région de Smyrne, c'est la population qui va s'opposer à la persécution, en disant maintenant ça suffit. Et Rome va pour un temps s'effacer, tellement l'impact de la seigneurie de Christ dans la vie de Polycarpe aura été extraordinaire. Mes amis, chaque fois que nous lisons le mot Seigneur dans les Écritures, essayons de nous souvenir que ce n'est pas un terme aussi banal qu'il y paraît, puisqu'il est tellement fréquemment employé dans les Écritures. C'est un terme très fort qui indique le souci de souveraineté absolue du Christ à la droite du Père sur chaque aspect de ma vie personnelle. Donc, sur l'utilisation de la langue. L'homme irrésolu, c'est un homme au cœur partagé. C'est un homme adultère. C'est un croyant qui n'a pas tout mis sur l'autel ou qui a repris ce que un jour il lui avait donné par amour. Nous l'avons dit hier, je tenais à le ressouligner ce matin, bien que j'ai des notes pour une heure d'étude encore, mais je crois que nous avons vu quelque chose de très important. Et vous savez, nous avons un mal fou, je voudrais terminer par là, nous avons un mal fou dans ce domaine de la consécration. Nous accusons Dieu de ne pas être généreux à notre égard, de ne pas accomplir ses promesses de plénitude à notre égard. Et en réalité, nous sommes les calculateurs. Je pense à ces deux enfants, Anne, une petite fille, et un garçon, François, qui était en train de jouer aux billes. Jouer ensemble aux billes. Et Anne avait en main un sachet de bon petit chocolat. Et quand Jacques voyait, ou François voyait, c'est Jacques en fait, c'est Jacques voyait le chocolat entre les mains d'Anne, il y avait deux choses que Jacques aimait beaucoup. La première, c'était les billes. Ah ça, alors, et puis alors, il avait des billes extraordinaires. Et puis après les billes, c'était le chocolat. Mais le chocolat faisait ce que les billes ne faisaient pas, ça lui faisait venir l'eau à la bouche. Alors il n'y tenait plus et Anne a bien vu que il y avait un désir immodéré de chocolat chez Jacques. Alors Anne lui a dit, écoute Jacques, je te donnerai tous mes chocolats si tu me donnes toutes tes billes. Parce qu'elle aimait les billes. Alors, dans un premier élan du cœur, bien entendu, Jacques a envie de dire « oui » tout de suite, puis subitement, mais ça se passe très vite dans sa tête, il dit « oh là là, si je dis « oui » tout de suite, j'ai dans ma poche une bille spéciale. J'en ai d'autres, mais alors il y en a une. Celle-là, je ne peux pas la donner. Regardez un peu ce qu'il avait dans la poche. Bien sûr, il ne l'a pas montré. Puis il s'est dit, comment est-ce que je pourrais faire pour donner toutes les billes? Oh, je sais. Il avait tellement l'habitude de la chouchouter, de la caresser, qu'il connaissait à sa bille les moindres détails, les moindres petites aspérités, les anfractuosités. Il l'avait tellement caressé. Alors, il a dit, oui, je te donne toutes mes billes. Et puis il a commencé les grandes manœuvres militaires. Il fallait écarter la fameuse bille qu'il ne voulait pas donner et récupérer les autres. Alors il a fait ça délicatement. Oui, c'est celle-là. Puis il a sorti toutes les billes. Et voilà. Anne, voilà, toutes mes billes. Et alors on a assisté à des scènes, vous savez, comme dans certains films extraordinaires où on fait des échanges sur un pont entre deux pays. L'un a tendu sa main, il y avait les billes dedans, l'autre avait le chocolat et on a fait un échange solennel. Puis nos deux enfants sont repartis, chacun dans leur direction. Jacques mangeait déjà le chocolat. Anne contemplait ses billes quand, subitement, l'un des deux s'est retourné vers l'autre. Et c'était Jacques. Il a dit « Anne !» Anne s'est retournée, il a regardé dans les yeux, il a dit « Anne, m'as-tu donné tous tes chocolats ?» Il avait la bille dans la poche. Et parce qu'il avait la bille dans la poche, il soupçonnait Anne d'avoir exactement fait comme lui. Mes amis, j'ai terminé avec cette histoire parce que ça, c'est nous. Nous sommes tentés de projeter sur Dieu notre manque d'amour, notre manque de consécration. Nous disons, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas là? Pourquoi est-ce que tu es en dessous de tes promesses? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous dit, comme il sait si bien le faire, mais Maurice, regarde voir dans ta poche. Est-ce que tu m'as donné toutes tes billes? C'est toi le problème. Le problème, c'est pas moi, tu ne m'as pas donné toutes tes billes. Tu as gardé quelque chose pour toi. Or, je suis ton Seigneur. Tout me revient. Et la question que Dieu nous laisse à la fin de cette rencontre. Et celle-ci, est-ce que nous avons une bille qui n'est pas au Seigneur? Est-ce que c'est peut-être notre langue qui n'est pas domptée par le Seigneur? Et avec laquelle nous faisons des ravages? Est-ce que c'est notre sexualité? Est-ce que c'est le porte-monnaie qui est un prolongement des plus évidents du corps humain? Toucher à nos sous, c'est toucher à nos personnes. Et nous pourrions ainsi continuer. Offrez vos corps. Offrez vos personnes.
mettez votre langue sur l'autel. De manière à ce que votre vie ne soit pas incohérente, et Dieu me le dit à moi-même, que ma vie ne soit pas incohérente, contradictoire, inconstante, fluctuante. Pour que le Seigneur puisse se glorifier en utilisant aussi cet organe extraordinaire dont il nous a doués pour le servir et l'aimer. Nous voulons prier. Nous nous inclinons, Père, devant toi. Tu as voulu nous visiter par ta parole. Nous te remercions de tout notre cœur pour tes compassions. Merci pour la justification, la sanctification, pour la glorification encore à venir. Merci pour la beauté et la richesse de ton salut. Donc, Seigneur, je veux t'offrir mon corps, ma personne, dans chacun de ses aspects, dans chacune de ses dimensions, sans garder de billes bleues pour moi. Visite-nous, Seigneur, visite-nous au niveau de l'usage, l'utilisation de notre langue, pour qu'elle soit aussi sur l'autel. Merci de mettre ton sceau sur ce que nous avons partagé et de nous fortifier dans notre désir de faire une démarche dans ta présence pour régler ce qui est à régler. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse te donner toutes les clés des chambres de sa vie, sans en garder aucune pour lui. Et ce sera jour de fête aujourd'hui, pour plusieurs, pour nous tous, et dans le ciel. Merci de bénir les heures à venir, notre communion, merci pour la joie d'être ensemble, de t'appartenir et de te servir. En Jésus-Christ.